Danny Dubé sera avec nous dans les prochaines minutes pour commenter les séries éliminatoires, bien sûr, la suspension qui vient d'être imposée à Nassim Kadri. On parle d'une suspension de 3 à 5 matchs. Dans le fond, c'est le reste de la première ronde contre les Bruins de Boston. Joe Thornton est en attente. On va aussi accueillir Vincent Destouches pour commenter la victoire à domicile de l'Impact samedi contre le Crew de Columbus. Et le bilan du Rocket de Montréal, de Laval avec Jérémy Filosa. Joël Bouchard sera avec nous demain. Accueillons maintenant Philippe Quentin. Bonsoir Philippe.
Salut Mario.
Alors, ce qui semblait impossible aux yeux de plusieurs, et je pense que tu fais partie de ceux-là, j'ose le rappeler, le souligner.
Tu as certainement le droit de le rappeler.
Ouais, et donc c'est fait. Tiger qui remporte un 15e majeur et la chasse au 18 de Jack Nicklaus semble reparti, Philippe.
Ouais, je suis époustouflé, Mario. Je ne croyais pas du tout. Je l'ai écrit plus d'une fois dans la presse. Oui, je ne croyais pas du tout que Tiger Woods pourrait de nouveau remporter un tournoi majeur. Ce qu'il a accompli hier, c'est absolument phénoménal. Je pense qu'il y avait de bonnes raisons pour croire qu'il ne pouvait pas revenir.
Ben oui.
Il est descendu tellement bas au plan physique, au plan émotif, de le voir ainsi se relever et renaître en quelque sorte de cette façon-là. C'est quand même carrément exceptionnel. Puis ce que j'ai surtout constaté hier, encore une fois, c'est moi, je pensais, puis une des raisons qui me faisait croire que Tiger ne pouvait plus gagner un tournoi majeur, puis ça aussi, je l'ai dit, et c'est là que je me suis trompé, je pensais qu'il n'inspirait plus la même crainte chez ses rivaux. Moi, je pensais que ce que j'appellerais l'effet Tiger, tu sais, le voir arriver avec son maillot rouge le dimanche, puis tu sais, les gens qui l'appuient et tout, je pensais plus que ça avait d'effet. Je pensais qu'il avait ça faisait trop longtemps qu'il n'avait pas gagné de majeur, qu'il y avait toute une nouvelle génération de golfeurs qui l'avaient vu en grandissant, mais quand eux-mêmes étaient jeunes, mais qui ne l'avaient pas affronté, qui n'avaient pas été intimidés par Tiger. Je pense à Jordan Spieth, à Rory McIlroy, à Justin Thomas, à tous ces gars-là qui ont énormément de talent. Et je me dis, eux, ils n'ont pas vécu ça comme joueurs. Ils n'ont pas vécu les belles années de Tiger. Ils regardaient de l'extérieur à l'adolescence. Mais c'est là que tu vois que l'effet Tiger sur le terrain, il est revenu pour toutes sortes de raisons. Il est revenu avec une force incroyable. Il y a un moment dans le match d'hier qui, pour moi, résume tellement bien ce dénouement fabuleux.
Ouais.
Et ça se passe au 12e trou. Alors, au 12e trou, ce qui est la normale 3 de 158 verges, là, tu sais, c'est celui avec le verre qui ressemble à une pâte de lasagne un peu à l'horizontale. Là. Et bien, il y a de l'eau devant, puis en arrière, il y a des fosses de sable. C'est très
difficile. Et en avant aussi, il y a une fosse, oui.
Oui, en avant aussi, il y en a une. Et là, dans le groupe qui précède celui de Tiger Woods, il y a deux joueurs qui sont... En fait, il y a Brooks Koepka qui est là, qui est certainement un prétendant au titre. Ian Poulter, qui l'est peut-être un peu moins, mais qui est pas loin, qui est à trois coups derrière à peu près à ce moment-là. Et les deux sur ce trou de 158 verges avec leur fer numéro 9, envoient leur balle à l'eau. Ils n'atteignent pas le verre. Ils ont mal jugé la distance, ils ont mal jugé le vent, ils n'ont pas bien frappé la balle. Peu importe la raison, ils se retrouvent à l'eau. Et pendant ce temps-là, le groupe de Tiger, avec Tony Finau et Francesco Molinari, eux, ils entendent tout ça parce qu'ils sont sur le verre du 11 qui est à côté. Là. C'est vraiment à côté. Ils entendent la foule qui fait « Ah! » Tu sais, les deux gars envoient leur balle à l'eau. Et d'ailleurs, Tiger le dit, là, qu'ils ont très bien réalisé que les deux balles étaient à l'eau. Alors oui. Là, finalement, les deux autres complètent leur trou avec des doubles bogeys. Arrive le trio de Finau, Woods et Molinari. Et Molinari, qui est le premier à frapper la balle, il le sait là, qu'il faut qu'elle frappe assez loin, que deux grands joueurs juste avant lui viennent de l'envoyer dans l'eau. Ben, ses nerfs lâchent, puis il l'envoie dans l'eau lui aussi. Et Finau le suit. Finau prend son élan. Il l'envoie dans l'eau lui aussi.
Ah oui, c'est incroyable. Le trou de l'enfer.
Écoute, c'est incroyable. Ils savent en plus là, qu'ils sont peut-être mieux de frapper un peu plus fermement, quitte à prendre un bâton de plus puis défoncer un peu.
Oui.
Tu vas tenter une approche, tu peux sauvegarder ton par. Mais non, ils ratent leur coup. Et là, Woods était le dernier à frapper sur ce trou-là dans son trio et il n'a pas pris de chance, il n'est pas du tout allé pour le drapeau qui était du côté droit, il est allé pour la gauche entre les deux fosses de sable. Il n'avait pas vraiment de chance de faire un oiselet à ce moment-là, mais avec les deux autres à l'eau, il savait bien qu'un par c'était suffisant pour aller chercher des coups et il était peut-être à 50 pieds du drapeau, il a fait un très bon premier pot, il a conclu avec sa normale pendant que les deux autres faisaient des 5, le tournoi a viré là, mais c'est là que tu vois la gestion du parcours et surtout la gestion des nerfs. Puis là, Francesco Molinari, lui, écoute, lui, là, il a un frère. Il y a des gens qui se souviennent sûrement de son frère, Eduardo Molinari. Alors, Eduardo a été un très bon golfeur aussi. Et il y a peut-être une dizaine d'années, je pense que c'était en 2008, Eduardo Molinari se retrouve au Masters sur le même duo que Tiger Woods. Et qui est le cadet d'Eduardo? Son petit frère, Francesco. Alors, Francesco Molinari, il a déjà été avec Tiger Woods la dernière journée, comme ça, d'un tournoi, mais comme cadet.
Incroyable.
C'est pas la même chose, là, quand c'est toi qui as le bâton entre les mains. Et aussi, bon soit-il, aussi extraordinaire a-t-il été, l'an dernier, il a gagné l'Omnium britannique, il a été électrisant dans la Coupe Ryder, il a été vraiment l'artisan de la victoire de l'Europe contre les Américains en septembre dernier. Ben là, lui aussi, s'est écrasé. Le phénomène Tiger a été trop fort pour ses nerfs.
Et c'est, en 1992, Fred Couples gagne le Masters avec le même cadet que Tiger Woods en ce moment.
Ouais,
et,
c'est vrai.
Et est survenu quelque chose de semblable au 12e trou. Et Couples est celui dont la balle tient en haut et ne redescend pas à l'eau. Alors, j'ai pas visionné tout le documentaire, mais ça a été dit hier pendant la description. J'ai trouvé ça fabuleux comme histoire. Et il y en a tellement de directions qu'on peut prendre avec ça. Est-ce que c'est le plus grand retour de l'histoire du sport ou même, si tu le prends d'un autre angle, parce que c'est difficile de comparer les retours. Je sais que ton collègue Alexandre
l'a fait dans la presse ce matin,
puis il y avait des noms auxquels on pensait. Moi, je pensais à Monica Seles. Mohamed Ali, Rumble in the Jungle, après ses 3 ans d'interdiction de boxer, c'était quelque chose. Il mentionnait George Foreman, Mario Lemieux, il y a Michael Jordan. Il y en a. Puis il y a aussi le moment de sport. Est-ce qu'en plus d'être le retour le plus exceptionnel, c'est aussi le plus beau moment ou un des plus beaux moments de l'histoire du sport? Bon. Alors, les questions sont parties, là.
Oui, tout à fait. Mais c'est sûr que la scène sur laquelle Tiger Woods a réalisé son exploit, c'est une scène incomparable. Le tournoi des maîtres, c'est le tournoi le plus prestigieux de golf. En tout cas, très certainement pour les Nord-Américains. Peut-être qu'en Europe, en Grande-Bretagne, c'est sûr qu'on va dire que c'est « the open », comme on dit, l'Omnium britannique. Mais pour nous, en Amérique du Nord, c'est le tournoi des maîtres. Alors, de réussir ça sur cette scène-là, sur ce parcours fabuleux, quand on suit ce tournoi-là, comme moi, depuis que je suis petit gars, là, les trous, on les connaît par cœur. Oui. Dans notre tête, on le voit, le 14, le 15, le 16. T'sais, on peut pas dire ça de Pebble Beach. Je suis pas capable de dire c'est quoi le 15 à Pebble Beach. Je pense que je me souviens du 18 qui longe l'océan.
C'est génial.
Pas plus que ça. Là. Alors que le tournoi des maîtres, c'est spécial. Alors, et qu'il réussisse ça aujourd'hui, c'est sûr qu'avec le temps, là, on prendra un peu de recul, puis on placera cet événement-là des perspectives plus justes, exactement. Mais ça s'inscrit dans tout ça. Ça s'inscrit dans ces grands retours, dans ces grands mouvements qui captent l'imagination populaire. Et franchement, ce qu'il a réussi, il faut lui lever notre chapeau. C'est spectaculaire.
Et pour compléter sur Tiger, je sais pas comment tu l'as vécu, quand il a gagné le championnat du Tour l'automne dernier, son 80e gain en carrière, moi, j'ai vécu des émotions comme téléspectateur plus fortes qu'en fin de semaine.
Oui,
je t'avoue, là, avec la marée humaine qui marchait derrière lui, c'était comme le gars qui ne... C'était pas un tournoi de piment, là, c'était le championnat du Tour, là, même si c'était pas un tournoi majeur. Et à ce moment-là, c'est drôle, c'est installé une espèce de croyance qu'il allait regagner un tournoi majeur. Et en fin de semaine, là, je suivais le score des 2 premiers jours, mais dans ma tête, il gagnait. Je sais pas comment ça allait se produire, mais et là, je le regardais chiquer sa gomme sur de lui, ses réactions. Il était imperturbable en fin de semaine.
C'est pas toi qui a mis le 85 000
non, monsieur.
Pour sa victoire, puis a gagné 1,1 million.
Non, j'aurais jamais eu... Même si j'avais eu une vision pendant un rêve, je pense j'aurais... Je suis pas un parieur, mais peut-être que je devrais donner... Non, mais comme le fait d'avoir gagné quand on ne croyait plus cela possible, et je pense que là, ça a pavé la voie à ce qui s'est passé ensuite.
Tout à fait. Moi, je dois t'avouer qu'après sa victoire, sa 80e victoire, j'ai été surpris parce que je le croyais pas non plus capable de gagner un tournoi de cette importance-là. Mais souviens-toi, tout de suite après ce tournoi-là, 10 jours après, ou même, je me demande si c'est pas la semaine suivante, c'était la Coupe Ryder. Il s'est rendu à la Coupe Ryder et il a vraiment... il n'a pas été très bon à la Coupe Ryder. Comme
raison.
Le reste de l'équipe américaine, il s'est écroulé. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, ça a comme renforcé, vois-tu, mon idée qu'il ne gagnerait plus un autre majeur. Mm-hmm. C'est-à-dire, regarde, il a donné tellement d'efforts pour gagner ce tournoi-là, mais là, il n'est pas capable de persévérer, mais de continuer.
Ouais.
Et donc, il arrive à un autre gros tournoi. C'est énorme, la Coupe Ryder. C'était tous les 2 ans. C'est très, très suivi. C'est populaire aux États-Unis. C'est populaire en Europe. Et là, il n'a pas été capable. Alors, je me suis dit, non, il est plus capable. Je pense qu'il va être encore bon. Il va menacer. Il va être là après 3 rondes, peut-être après 3 rondes et demie. Mais au bout, là, quand ça va arriver puis qu'il va falloir qu'il cale le dernier pot pour gagner, moi, je pense pas qu'il va l'avoir. Et c'est là que je me suis trompé, parce qu'il est revenu. Et je me souviens, par contre, qu'après sa performance décevante, c'est en France, la Coupe Ryder, cette année, Il a dit « J'étais simplement fatigué, j'étais épuisé, j'ai pas joué autant de golf depuis longtemps. Toute l'émotion de la victoire, ma 80e, je l'attendais depuis tellement longtemps et tout, ça m'a comme épuisé, ça m'a drainé. » Et bon, évidemment, il avait raison. Et là, quand il a refait le plein d'énergie pendant le reste de l'automne, il est arrivé, il a bien amorcé sa saison. Et là, ce qu'il a accompli, c'est magnifique. Mais encore une fois, il a réussi. Tu sais, il a géré les nerfs. Il a été le maître de la gestion des nerfs.
Victoire mentale.
Il y a un jeune gars qui s'appelle Patrick Cantlay qui s'est retrouvé avec 4 ou 5 trous à jouer premier à moins 12. Et Tiger était pas loin là, en arrière de lui. Il était 2 ou 3 trous derrière. Et ce Patrick Cantlay-là, je pense que quand il a réalisé qu'il était premier, tout à coup, il a enchaîné avec 2 bogeys. C'est ça la pression du tournoi des maîtres. Il a touché. En dedans 10 minutes, il était plus là.
T'sais. C'est exactement ça. Puis c'est drôle parce que en tout cas, écoute, je pourrais en parler toute la soirée. Philippe, mais un petit blitz hockey, si tu me permets. Un commentaire sur le fait que Kadri Cup d'une suspension de 3-5 matchs, c'est-à-dire le reste de la première ronde contre les Bruins.
Bon, c'est une sanction réconfortante parce que si la Ligue nationale était allée avec moins que ça, je pense qu'on se serait encore posé des questions sur la rigueur et la vigueur des sanctions. Et là, c'est un coup absolument inadmissible de Nedim Kadri, qui est un gars qui est reconnu pour des coups déloyaux comme ceux-là. C'est pas sa première suspension, on le sait bien. Son geste était complètement inadmissible. Si jamais il n'avait eu qu'un match ou deux puis qu'on en aurait un peu passé l'éponge en disant hey, c'est les séries, c'est tellement important. Moi, j'aurais trouvé ça extrêmement dommage. Et là, la Ligue nationale envoie quand même un message intéressant. On ne le reverra plus dans cette série-là. Et ça évite aussi un dérapage, Mario. Ça évite un dérapage. Cette série-là, disons qu'elle aurait été suspendue pour 3 matchs et puis que cette série-là se rend à un 6e, à un 7e match. Là, qu'est-ce qui serait passé dans cette rencontre-là? Est-ce qu'on aurait cherché vengeance du côté des Bruins puis ça aurait pu complètement déraper? Alors, je trouve que la Ligue nationale a pris une décision juste. Tant pis pour les Maple Leafs et tant pis pour Kadri. Il a couru après le trouble. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Son geste était inadmissible. Moi, je suis content qu'il soit suspendu pour le reste de cette série-là.
Les gagnants de la saison régulière gagnent rarement la Coupe Stanley, mais il reste que Tampa Bay est face à l'élimination en première ronde par balayage potentiel contre les Blue Jackets de Columbus. Est-ce que la dernière fois que Tampa Bay a joué des matchs significatif, c'est l'an passé, en finale de conférence contre Washington, n'ont pas marqué un but dans le 6e match, n'ont pas marqué un but dans le 7e match.
Ouais.
Est-ce que c'est là que ça s'est brisé, la machine du Lightning de Tampa Bay, et on le redécouvre là, alors qu'il y a encore des matchs significants?
Je sais pas, parce qu'ils ont quand même eu toute une saison.
Mais la saison, c'est la saison.
C'est deux choses, c'est ça. C'est pas, tu sais, on dit souvent qu'en séries éliminatoires, la grosseur des joueurs, ça fait aussi un impact. C'est pas une équipe super grosse, le Lightning de Tampa.
Tolérance des arbitres, Philippe, aussi, permets-moi de mentionner. C'est pas la même affaire, là.
Non, c'est pas la même affaire. Puis, je pense qu'ils ont une équipe sensationnelle, mais comme toutes les équipes enlèvent deux de leurs meilleurs joueurs sur la route, en plus, comme c'était le cas hier, sans Kucherov, sans Edmund, ça devient beaucoup plus difficile. Cela dit, je pense qu'il ne faut pas oublier une chose. Pour moi, les Blue Jackets de Columbus, Mario, c'est une fausse équipe de 7e place.
D'accord.
C'est pas vrai qu'ils méritaient la 7e place. Eux, là, ils ont deux joueurs exceptionnels, Panarin et Bobrovsky. Toute l'année, on se demandait qu'est-ce qui arrive. Est-ce qu'ils vont être échangés à la date limite des transactions? Oui, non. Ça touche le moral d'une équipe. Donc, ils n'ont pas bien joué. Ils ont joué ordinaire. Là, finalement, on les garde. Non seulement on les garde, mais on va chercher Duchesne et Dzingel. Donc, on dit, écoutez, on y va pour la Coupe Stanley cette année. Mais là, ça prend un peu de temps avant que tous ces éléments-là, un peu disparates, réussissent à former un tout et puis que ça devienne uni. Et ça a pris du temps, ça a pris au moins une dizaine de matchs avant que les Blue Jackets réussissent à le faire. Mais une fois qu'ils ont relevé ce défi-là puis qu'ils ont réussi ce coup-là, ça change complètement la donne. Ils deviennent une super équipe. Ils ont des super bons joueurs. C'est pas une équipe de 7e place, là, l'équipe à l'heure actuelle.
Une équipe de 8e place, je précise, Columbus à 98 points. Un de moins que la Caroline.
T'as raison. Ben oui, je joue contre le Lightning. Je suis désolé de l'erreur.
Il n'y a pas de problème.
Rappeler. Alors, donc, c'est un faux 8e, tu vois. On voit que c'est une bien meilleure équipe que ce qu'on a vu au classement.
Comme Vegas a une meilleure équipe qu'avant date limite des transactions, c'est sûr, avec Stone, c'est son menaçant. On en reparlera plus tard cette semaine.
On va faire parler de Patrick
qui va bien. Ben oui, ça va bien avec deux bons joueurs.
C'est ça.
On revient avec Danny. Salut, Philippe.
Salut.